François Grin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en direct de notre studio à Genève. François Grin, vous avez lu le Temps ce matin et ça ne vous a pas plu ce que vous avez lu, notamment l'interview de Xavier Comtesse. On va dire évidemment que vous êtes professeur d'économie à l'école de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Donc quand on parle de bilinguisme, j'imagine que tout de suite vous vous sentez concerné. Qu'est-ce qui vous a tant choqué dans les propos de Xavier Comtesse ?
Ce qui m'a surpris, en fait, c'est que on revoit dans cette interview toutes sortes de clichés. En particulier, l'idée qu'il n'y a que l'anglais qui compte. Je lis ici que la langue qui compte, c'est l'anglais. Un autre cliché, c'est que le bilinguisme coûte cher. Un troisième, c'est que le français, l'allemand sont des langues marginales. Alors, lire des choses comme ça me surprend un petit peu parce qu'on a quand même, au cours des années, au fil des recherches, accumulé toutes sortes de résultats qui nous permettent de chiffrer la valeur du plurilinguisme et, entre autres, la valeur de nos langues nationales et Ces chiffres nous montrent de manière extrêmement claire, on peut regarder ça sous différents angles, et ce qu'on trouve de manière régulière, c'est que les langues nationales sont au contraire très rémunératrices. Donc je regretterais que soit créé parmi les lecteurs l'impression que le français, l'allemand, ça sert à rien et qu'il suffit de faire de l'anglais. Justement pas d'un point de vue économique.
Eh bien, Xavier Comtesse est là avec nous ce soir pour vous répondre. Bonsoir Xavier Comtesse.
Bonsoir.
Directeur roman d'Avenir Suisse. Alors vous affirmez que bilinguisme allemand-français, ça coûte cher. Pas du tout, vous dit François Grin.
Non, mais il faut voir le contexte. On me pose la question sur le canton de Berne, sur la Berne fédérale, etc. Et puis là, on parle de l'allemand et le français, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à Berne, au palais fédéral, mais aussi en Suisse allemande dans les entreprises, on ne parle qu'une seule langue, c'est le suisse allemand. Et alors quand on me parle toujours de l'allemand et le français, moi ça me fait marrer. Si vous envoyez un parlementaire qui parle le français à Berne, il comprendra rien. Tout se fait en suisse allemand. Tout est dirigé dans notre pays, dans une seule langue, le suisse allemand. Et quand on vient à la langue allemande ou la langue française, c'est-à-dire la forme écrite, hein, finale, eh bien c'est déjà comme un contrat. Donc on est hors jeu tout le long.
Mais la langue de travail, Xavier Comtesse, à Berne, c'est tout de même le Hochdeutsch. Quand on demande aux parlementaires de parler le Hochdeutsch, ils le font avec des parlementaires romands.
Mais seulement s'il y a un parlementaire roman ou seulement s'il y a un allemand en face d'eux. Mais entre eux, ça se fait pas. Tout se fait à Berne comme dans le business, dans les couloirs. Il faut arrêter de croire que quand la chose se fait en allemand, c'est sérieux. Tout a déjà
été décidé.
Et
pourquoi ça coûte cher, le bilinguisme allemand-français?
Parce qu'une fois que vous avez tout décidé de manière orale, il faut après imprimer en allemand, puis traduire en français, puis traduire en italien, puis etc. Un peu comme ça se passe à Bruxelles. Et donc, vous avez un espèce de jeu comme ça, extrêmement lent d'ailleurs, puisque tout a déjà été décidé, et un peu pour rien, un peu
François
pour la galerie,
Grin.
Quoi.
François Grin, ça sert à rien, ça coûte cher, il faut traduire, vaut mieux que tout le monde parle l'anglais, comme ça il n'y aurait plus rien à traduire.
Mais c'est-à-dire que ça nous mettrait tous au même pied d'égalité, vous voyez.
On va laisser François Grin répondre.
Alors, je vais peut-être effectivement répondre à ça. Alors, je constate d'abord une chose, c'est que on a au fond glissé d'une question à l'autre. Derrière l'assertion générale que la langue qui compte, c'est l'anglais, enfin, on enlève un petit peu de disons-le en anglais, du fluff là autour, et on nous dit, en fait, le vrai problème, c'est qu'au palais fédéral, on parle suisse allemand. Alors ça, je suis d'accord sur une chose très très clair, c'est que plus on est minoritaire, plus il est utile d'apprendre la langue de la majorité. En l'occurrence, pour les francophones, d'apprendre l'allemand. Ça, on est tout à fait d'accord.
Le suisse allemand, c'est pas pareil.
J'y viens, bien entendu. Hein, naturellement, des compétences en suisse allemand, c'est tout aussi utile. Ceci dit, il ne faut pas oublier que l'utilité des différentes langues, ça dépend aussi d'un contexte institutionnel, ça dépend des politiques linguistiques qu'on met en place, qui préservent une plus ou moins grande place pour différentes langues. Et à ce niveau-là, je pense qu'il est indispensable de rappeler que nous vivons dans un pays plurilingue et que, en conséquence de ce fait, les langues nationales, elles sont utiles non seulement d'un point de vue politique, culturel, parce que ça correspond à une certaine tradition, mais elles sont également utiles parce que, économiquement, elles rapportent. Alors ça, j'aimerais quand même rappeler que les compétences en allemand, ça rapporte aux francophones en moyenne une prime de 14%. Et puis les compétences en français, ça rapporte en moyenne aux alémaniques une prime salariale de 14%, en contrôlant pour l'éducation, en contrôlant pour l'expérience professionnelle, etc.
Donc il y a une véritable... Vous oubliez de dire qu'il y a une prime de 18% si vous parlez l'anglais. Elle est donc supérieure.
Alors attendez, j'allais...
Votre point tombe tout de suite.
Non, il ne tombe pas tout de suite, cher monsieur. D'abord parce qu'il y a deux choses à dire.
C'est vous qui l'écrivez.
Alors oui, mais simplement si vous me lisez jusqu'au bout, vous verrez que 18% en Suisse alémanique pour l'anglais, c'est vrai. C'est 10% en Suisse romande. Donc en Suisse romande, l'anglais rapporte un petit peu moins que l'allemand. Cela dit, moi j'encourage tout le monde à apprendre l'anglais, j'encourage les gens à l'utiliser. Moi je l'utilise tous les jours, du reste avec plaisir. Mais maintenant, posez-vous la question, puisque vous avez dit, du point de vue de l'État, de la collectivité, c'est une mauvaise chose. Alors ce qu'on fait, on passe des rendements privés aux rendements sociaux. Et les rendements sociaux, à ce moment-là, on arrive à, en prenant en compte la dépense que l'on fait pour l'acquisition et l'enseignement de ces langues, l'image se modifie pas mal, parce qu'on a, quand on tient compte du fait notamment qu'une partie des compétences s'acquiert en dehors de l'école, on a pour les trois langues environ une prime nette de 7%. Ça, c'est le retour
mais messieurs,
sur investissement.
Est-ce qu'on peut vraiment, Xavier Comtesse,
pour l'anglais, alors,
voilà, alors on va pas se battre sur les chiffres, non, mais c'est un peu étonnant quand même, Xavier
Comtesse. C'est ça qui est bizarre.
Ce qui est étonnant aussi, c'est de considérer la langue ou le bilinguisme uniquement sur une perspective ou d'un point de vue économique. D'ailleurs, ce débat le prouve, vous entendez déjà pas sur les chiffres. On oublie un peu la dimension culturelle, la dimension nationale, ce sont quand même nos langues nationales, Xavier Comtesse. On peut pas juste se restreindre à une dimension économique.
Non, mais quand je sors comme ça par provocation, cette idée sur l'anglais, c'est simplement parce que ce que je me rends compte, c'est que le vrai mythe en Suisse, la vraie dénonciation qu'il faut faire, c'est qu'en Suisse, on ne parle qu'une langue, elle s'appelle le suisse-allemand, et que nous autres, les romans, si nous voulons avoir une chance d'être dans le débat, c'est-à-dire dans la discussion, c'est-à-dire dans la décision, eh ben, ce serait mieux qu'on parle tous l'anglais, parce qu'à ce moment-là, on est à pied d'égalité. Aujourd'hui, on est désavantagé d'une manière absolument colossale. Moi, j'ai habité 4 ans à Berne, j'ai travaillé 4 ans au gouvernement, je sais de quoi je parle.
Mais Xavier Comtesse, est-ce que tous les conseillers fédéraux ne parlent pas tous le suisse allemand?
Ils se débrouillent en allemand et ça suffit. Ils sont faibles, ceux qui ne le parlent pas. Ils sont très faibles.
Monsieur Comtesse, si vous voulez, rappelons d'abord les chiffres. Je rappelle, on peut rentrer dans les détails. C'est moi qui les ai calculés avec toute une équipe. Je les connais. Donc, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je répète que quand on tient compte de l'investissement qu'on fait, du coût engagé pour les dépenses, pour l'enseignement des différentes langues, on arrive de manière générale, à travers les régions et à travers les langues, à une fourchette qui tourne autour de 7%. Et en ce qui concerne l'anglais, ça oscille de 6,5 à 8,2. Vous m'accorderez comme scientifique qu'on peut dire autour de 7. Voilà. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est si vous nous parlez d'égalité dans la communication. Vous me rappelez une situation que j'ai vécue quand j'ai été contacté par un journaliste du Wall Street Journal qui me disait « Pourquoi est-ce que les Néerlandais s'obstinent à parler le néerlandais? Ils parlent déjà bien l'anglais, ils auraient qu'à l'apprendre convenablement, abandonner le néerlandais et ils seraient en fin de compte beaucoup plus prospères, tout irait beaucoup mieux. » Alors je lui dis « Mais écoutez, cher monsieur, s'il s'agit d'économiser de l'argent, il y a une solution très simple, c'est pas l'anglais, c'est l'espéranto. Et à ce moment-là, la vraie question c'est pourquoi est-ce que les Américains comme vous s'obstinent à parler l'anglais? Ils économiseraient tellement d'argent à n'employer que l'espéranto, qui est une langue tellement plus facile à apprendre. »
Xavier Comtesse, c'est un peu triste votre argument. Tout le monde parle anglais.
Deux choses que j'aimerais rajouter maintenant. La première, il est hors de question d'abandonner la langue maternelle. À aucun moment je dis le contraire dans cet article. Donc ça, c'est clair qu'on a une langue maternelle, c'est celle avec laquelle on s'exprime et avec ses copains et tout ça. Quand il s'agit de communiquer au niveau national, et c'était la critique que je faisais aux Bernois, moi j'ai habité 4 ans à Berne, ils n'arrêtent pas de vous parler en suisse allemand, que ce soit au magasin,
mais ils vont continuer, même si on parle anglais dans les entretiens.
C'est pas du tout le cas à Zurich, par exemple, pas du tout. Alors là, vous trompez largement. Et donc, je disais, s'ils voulaient, parce que c'était le sujet, était Berne, et je disais, s'ils veulent être vraiment une capitale, alors ils doivent favoriser les minorités. La manière de le faire, c'est pas de continuer à parler du suisse allemand, c'est ça mon argument, c'est de parler l'anglais. Point.
Puisque vous avez
dans la
Zurich,
communication, je dis pas alors, par rapport à la famille.
Alors, François Grin, sur la communication à Zurich.
Écoutez, puisque vous évoquez Zurich, où j'ai eu l'occasion moi-même de séjourner et de travailler pour des périodes prolongées, ce que j'ai constaté là-bas, et ce qui du reste correspond tout à fait à ce qu'on trouve dans le cadre d'un projet européen dans lequel je suis impliqué, où on travaille avec 18 universités à travers l'Europe, avec le financement de la Commission européenne, ce qu'on constate, c'est que dans la pratique, les gens utilisent plusieurs langues. Ils passent d'une langue à l'autre.
Mais
c'est un usage flexible. Et dans le cas de cet usage flexible que j'ai également pu constater à Zurich, l'usage des langues maternelles et la compétence réceptive dans la langue de l'autre, ça permet à chacun de s'exprimer avec plus de rapidité et plus de précision.
Mais vous êtes d'accord,
d'accord.
Alors c'est with pleasure que je vais clore le débat sur un accord entre voilà, vous deux, François Grin, professeur d'économie à l'école de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève, et Xavier Comtesse, qui aimerait qu'on parle plus l'anglais à Berne dans la communication, directeur roman d'Avenir Suisse. Merci.